With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit:
t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Saletemps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. C'est le nouveau podcast de Capture Mag. Dans cette émission, on va décortiquer les sorties hebdomadaires ciné. Alors cette semaine avec moi, je suis accompagnée de Stéphane.
Salut Clémence.
Arnaud.
Salut Clémence.
Et Julien.
Bonjour Clémence.
Et puis c'est Alain qui nous accompagnera à la technique.
Bonjour.
Voilà, merci. Quelle belle voix de ténor.
Dans ce premier épisode, on va parler de Peninsula. Peninsula, c'est la suite de Dernier train pour Busan de Yeon Sang-ho. Dernier train pour Busan, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était un film de zombies. C'est sorti en 2016. L'histoire se déroulait en Corée. Et l'histoire donc de Peninsula se déroule 4 ans après ce premier film. Toute la Corée est désormais coupée du reste du monde. Un groupe de soldats doit y retourner. Ils découvrent qu'il y a évidemment des survivants qui ne sont pas encore contaminés et qui se battent encore contre les zombies. Le film a été sélectionné initialement en compétition officielle à Cannes et il a reçu le label du Festival de Cannes 2020 après l'annulation de l'événement. Alors, on va commencer par la fin, hein, pour ceux qui n'ont pas le temps. Je vais tout d'abord vous demander votre avis sur le film en un mot. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses ?
Série Z ? Ça te va ?
Ça me va. Arnaud ?
Plaisir.
Plaisir. Oh là là. Et Julien, je crois que t'as...
Moi, je suis moins capiteux, moi. Je serais...
Un mot, Julien.
Déception.
Bon, je vois qu'on a des avis tranchés, c'est bien. Au moins, ça fera un débat animé. C'est parti, let's fight!
Moi, c'est vrai que j'ai découvert le dernier train pour Busan à Cannes, hein, qui était le premier film de Yeon Sang-ho que je voyais, quoi. Et ça avait été à Cannes, ça avait fait l'effet un peu d'une mini déflagration. Et c'est vrai que donc, j'attendais quand même cette suite. Suite qui en est une, hein, mais sans vraiment en être une non plus, Clémence, parce qu'en fait, il n'y a aucun personnage commun aux deux films. Mm-hmm. Et comme tu le disais, ça se passe 4 ans après les faits. Et on retourne dans la ville, quoi, qui est coupée du reste du monde et où les zombies font la loi, quoi, désormais. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun lien, aucun personnage, aucun point d'intrigue qui est partagé avec Dernier train pour Busan. Donc c'est une sorte... Moi, déjà, j'aimais bien ce concept-là, c'est-à-dire de développer l'univers, mais sans forcément en faire une suite directe. Et après, c'est vrai qu'alors, on a eu quand même ces derniers mois là, un petit peu peur, parce que c'est vrai que la réception du film, alors, notamment au Festival de Deauville, par la critique française par la critique américaine aussi, a été très déceptive, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui en parlaient, qui disaient que c'était nul, que c'était vraiment que Dernier train pour Busan était un chef-d'œuvre, alors que à côté là vraiment c'est... Bon, alors moi déjà j'ai souvenir à Cannes en 2016 c'était pas vraiment le même topo. Moi je me rappelle, on était quelques cinéphages à délirer sur Dernier train pour Busan et à trouver que c'était un des meilleurs trucs qui était arrivé à Cannes cette année-là. Moi je me rappelle que la plupart de mes collègues ne déliraient pas, ils parlaient du Xavier Dolan. Dylan, il parlait du dernier Ken Loach, voilà, c'était ça, les polémiques un petit peu entre journalistes étaient sur ces sujets-là, et pas du tout sur Dernier Train pour vous. Donc moi, ça m'a fait un peu rire d'entendre certains sortir du festival de Deauville en disant « Ah non, mais ce chef-d'œuvre de Dernier Train pour Busan, quelle trahison, machin et tout, parce que bon... » Mais donc toujours est-il que c'est vrai que c'était un peu quand on aborde Peninsula, on est un petit peu et qu'on a reçu ces avis sur le film, on est un petit peu calmé. On se dit tiens, il doit y avoir vraiment un problème parce que ça a l'air assez unanime. Et alors moi, bon, je sais que je suis un peu tout seul ici, parce que c'est pas forcément le cas de Stéphane et de Julien.
Non, mais, attends, mais Arnaud, t'inquiète pas.
mais non, moi j'ai eu déjà le plaisir de retrouver. C'est pour ça que je veux parler de plaisir. J'ai eu déjà le plaisir de retrouver le style du réalisateur. Je trouve que on voit que c'est clairement le même cinéaste qui a fait Dernier Train pour Busan. Et là, je parle vraiment de manière un petit peu de panacher déjà les genres, c'est-à-dire de mettre de l'action,
de l'émotion,
de l'horreur, un petit peu d'humour aussi, même s'il y en a un peu moins que dans Dernier Train pour Busan. Je crois que c'était vrai que le panachage dans Busan était vraiment impeccable. Là, il y a peut-être, par exemple, un petit peu moins d'humour, mais il y a des vrais personnages hauts en couleur. Par exemple, il y a un personnage de gamine de 12 ans qui connaît les rues de la ville par cœur et qui se déplace en 4x4, quoi, et qui conduit, mais comme une tarée. Quoi.
Il y a un petit côté Fast and Furious.
Ouais, bah, alors moi, c'est pas la référence, forcément, quoi, mais je trouve l'idée de base de mettre une gamine de 12 ans dans ce type... Au début, c'est surprenant, en fait, quand on la voit débouler, qu'on la voit se démerder comme ça dans les rues en pleine nuit, à faire des têtes à queue, des dérapages contrôlés, trucs comme ça. Et... Donc voilà, ouais, non, il y a des personnages assez hauts en couleur. Il y a aussi c'est quand même le cinéma de Yang Sang-ho, c'est quand même un cinéma qui est bourré d'idées. Souvent, c'est quelqu'un qui est nourri un petit peu par son passé dans l'animation, hein, et qui essaie de faire des trucs un peu surprenants et auxquels on n'a pas forcément l'habitude dans le cadre d'un film en prise de vue réelle. Et puis ouais, des idées. Je sais que moi, il y a par exemple, je vais pas dévoiler le truc, mais il y a c'est quelqu'un qui manie les relances, les payoffs avec un côté assez jouissif, quoi. Mais par exemple, il y a une idée au début du film qui a une vraie idée d'ambiance horrifique avec la manière dont il révèle la présence de zombies dans un endroit un peu anormal, quoi. Mm-hmm. Je vais pas en dire plus parce que je veux pas dévoiler le truc au spectateur. Et ce truc, quand il est repris plus loin dans l'intrigue, c'est vraiment... Moi, j'ai eu un vrai plaisir de spectateur à voir ça, comment c'était repris. Et d'autant plus qu'il l'avait bien caché à la base, parce que c'était pas juste un élément qu'il avait placé comme ça en amorce. Il avait fait une vraie scène avec, comme je le disais, d'ambiance horrifique et d'idées où on se dit « Ah, putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ?» Et voilà... Non, moi, globalement, c'est ça. Voilà, j'ai retrouvé cette narration qui me procure, moi, personnellement, beaucoup de plaisir. Après, c'est vrai que, bon, ben voilà, il y a quand même quelques défauts. C'est moins puissant que Busan, parce que, aussi, il y a quand même un des défauts du film. C'est un petit peu du porn CGI, quoi. C'est-à-dire, on a beaucoup d'effets en images de synthèse. Alors là aussi, c'est peut-être le... il a à la fois les défauts et les qualités de son passif, quoi.
C'est vrai que c'était pas le cas dans le premier.
Il y en avait beaucoup
d'images de synthèse dans le 1,
mais c'était quand même utilisé complètement différemment.
Voilà, là le truc, c'est
non, je pense que là il y a une ambition de faire un film hybride, en fait.
C'est-à-dire, ouais, on se retrouve avec des poursuites en bagnole où toutes les bagnoles sont en CGI, tu vois. Et alors effectivement, bon, mais comme c'est pas ILM ou VETA qui est derrière les manettes, c'est pas du CGI de première catégorie. Bon, après, moi, c'est pas forcément un problème pour ça. Je veux dire, on a déjà été habitué, quand on aime le cinéma asiatique, quand on aime Stephen Chow, quand on aime Soyark, à avoir des effets comme ça, des effets spéciaux pas très aboutis. Si la narration sert quand même le projet, quoi, du réalisateur, moi, j'ai toujours tendance à trouver que ça passe. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même un surplus et un côté un peu brut qui peut, au bout d'un moment, un peu rebuter.
En même temps, le contexte narratif n'est pas le même non plus, parce que le premier, ça se passe dans un train, donc ça pose quand même un cadre bien délimité.
Il y avait unité de temps, unité de lieu, unité d'action, les enjeux sont resserrés. Ouais, tout à fait. Ouais,
alors que là, on a un terrain de jeu qui est vachement plus vaste, mais en même temps...
Ouais, non, c'est vrai, c'est à l'échelle d'une ville, et à l'intérieur de ça, en plus, bon, c'est le réel, quoi. Il s'autorise des scènes qui sont presque des mini-univers à l'intérieur de l'univers, quoi, global. Je pense à l'arène, par exemple, où il y a une arène avec des êtres humains qui sont livrés en pâture à des zombies, notamment un monstre là, assez dégoûtant. Voilà, il y a quand même effectivement, comme tu le dis, une narration plus éclatée, moins directe et moins concentrée que sur Busan, où voilà, pour la raison que j'ai dit, il y a effectivement unité de temps, unité de lieu, unité d'action. C'est tout de suite beaucoup plus intense, forcément, quand tu prends ces partis pris-là.
Je prends la parole, Clémence. Tu me regardes, les gens ne voient pas, mais elles me regardent. Donc, je pense que je prends la parole.
J'attends alors, ton
je prends
avis, la parole.
Je suis, en fait, peut-être à son grand étonnement, mais je suis assez d'accord avec Arnaud sur les points de détail. Moi, je vais pas.
Je suis étonné.
Je vais pas jeter en bloc le film, mais c'est vrai qu'il y a des points de détail sur lesquels qu'il a évoqué, sur lesquels je suis plutôt d'accord. Après, moi, je n'aime pas le film et je l'aime pas, et c'est pour moi une énorme déception parce que je voyais un parcours en fait chez ce réalisateur. Moi, je crois que je suis le seul ici à avoir vu tous ses films, en fait, même ses courts-métrages et tous ses films animés auparavant. Donc, et pour moi, qui sont des très grands films, qui ne sont pas connus, mais qui sont des très grands films, The Fake ou King of Pigs, c'est des films qui m'ont marqué profondément et qui, à mon sens, sont totalement uniques et démontrent, en fait, que tu as une voix là qui a nul autre pareil.
On peut préciser qu'ils existent en France et qu'on peut les voir.
Alors justement, oui, c'est ce que j'allais dire. Ce sont des films qui ont été exploités, notamment grâce à nos camarades de chez Spectrum Films. Mais il y avait aussi parce que tu as dit que c'était une suite à Dernier Train pour Busan, Peninsula. Mais en fait, c'est la fin quelque part aussi d'une trilogie, puisqu'il avait aussi réalisé une espèce de préquel en animation aussi, qui était Seoul Station. Alors après, ça n'avait pas la tenue, c'était un petit budget, etc. Mais c'était quand
qui
même...
C'est en bonus. Le Blu-ray de Dernier Temps.
Exactement.
Pour Busan,
mais c'est quand même un complément. Et ça, comment dire, étend l'univers. Parce que ce qui était intéressant dans Seoul Station, c'est que ça part du même principe que Peninsula. C'est-à-dire que tu es dans le même contexte, dans le même univers, mais tu n'as pas les mêmes personnages. Donc, il y a une volonté là de créer son monde, en fait. Ses films monde, sa saga. Et c'est là, en fait, où le bas blesse. Alors, je vais expliquer, c'est qu'il y a deux trucs. C'est que moi, ce que j'attends quand il y a une voix comme celle-ci qui sort dans le paysage cinématographique, c'est qu'elle se déploie et qu'elle s'assume. Et moi, j'attendais que ça, en fait. C'est-à-dire que le gars commence avec ses petits films d'animation qu'il a quasiment conçus tout seul, qui sont des tout petits budgets. Hein. C'est assez déstabilisant. Si vous êtes habitué à une certaine animation, il va falloir voir certaines de vos attentes sur l'anime à la baisse si vous regardez King of Pigs et The Fake, parce que c'est pas aussi beau, c'est pas aussi fluide, etc. Mais bon, il arrive à créer son truc, et puis il arrive à avancer, en fait, à progresser dans l'industrie, du coup, à faire progresser son œuvre avec elle. Et à ce titre, Dernier Train pour Busan, c'était quasiment un pas de géant, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le gars arrivait quand même, moi je trouve, à rester relativement cohérent avec ses films d'animation, même s'il perdait une grosse part de la noirceur, de la misanthropie, et puis aussi du côté iconoclaste, en fait, de ses précédents films. C'est quand même des films qui ont un pétocasque, quoi, vraiment, littéralement. Alors que Dernier Train pour Busan est un film beaucoup plus tenu, finalement. Ça, tu peux dire que c'est une espèce de blockbuster horrifique. Enfin, moi, je pense que ça ne choquera personne si tu le qualifies comme ça, avec toute l'affection que je porte au blockbuster, évidemment. Et du coup, en fait, après ça, tu te dis, alors, quelle va être l'étape supplémentaire, surtout que tu sais que ça a eu un énorme succès non seulement en Corée, mais aussi partout dans le monde, hein, basiquement, un Dernier Train pour Busan. Il avait fait, entre les deux, un film qui n'a été distribué chez nous que sur Netflix, malheureusement, qui s'appelle Psychokinesis, je crois. Hein, ouais, c'est ça le titre ça. Français. Qui est, pour moi, c'était pas un faux pas, mais c'était un coup pour eux. C'était, voilà, j'ai réussi ça avec Dernier Train pour Busan, c'était un calcul, moi je l'ai pris comme ça. Il voyait encore plus ses obsessions à la baisse, il y avait un côté qui était, alors j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, faute de mieux, je l'utiliserai, il y a presque commercial, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus accessible, c'était plus sage, il y avait des points d'entrée qui étaient vachement plus évidents, surtout j'imagine en Corée d'ailleurs, mais malgré tout c'était un film qui se tenait, c'était un film de super bien fait, c'était un film qui était plutôt bien rythmé, même s'il y avait quelques moments de mou, assez émouvant même de temps en temps, et moi ça me faisait patienter, je me disais bon bah voilà, là je pense qu'avec Peninsula on va passer au stade supérieur. Et c'est là où le bât blesse, en fait. C'est-à-dire que là, pour moi, sur Peninsula, il a toutes les cartes en main. Il veut faire une espèce d'épopée horrifique à l'échelle maintenant, comme tu l'as dit, d'un pays, d'une nation tout entière, qui n'est plus...
D'une ville,
mais enfin, en tout cas, c'est un truc ample, quoi, et c'est vraiment une volonté très, très clairement affichée, j'ai envie de dire quasiment dès le début, quoi, enfin, en tout cas, très vite dans le métrage, avec beaucoup plus de personnages, avec un récit qui est beaucoup plus éclaté sur différents groupuscules humains et tout. Et pour moi, c'est là-dessus, en fait, qu'il se plante dans les grandes largeurs. C'est-à-dire que qu'il y ait des problèmes avec l'action, qu'il y ait des problèmes avec des trucs où finalement le film ne lui... Enfin, la production, ou lui peut-être qu'il a aussi mal géré ça, ne lui donne pas les moyens de ses ambitions et que tu te retrouves avec un résultat parfois un peu cheap, c'est une chose. C'est un problème peut-être, mais c'est une chose. Finalement, ça, moi, je suis prêt à passer là-dessus et je pourrais peut-être revenir sur l'image de synthèse, mais c'est pas très grave pour moi, ça. Pour moi, ce qui est grave avec l'image de synthèse, c'est que finalement, il n'en fait rien. Il aurait pu tourner ça en live, ça aurait été, basiquement, ça aurait été la même mise en scène, à peu de choses près, et ça aurait été les mêmes cascades.
C'est ce qui rend les choses problématiques avec le CGI.
Ça, c'est relou. Ça, c'est relou parce que finalement, moi qui fasse un truc hybride et qui fasse du CGI, j'ai rien à faire. Mais qu'il l'assume et qu'il fasse un truc délirant. Alors,
dans la poursuite, finale, il y a quand même des trucs qui
ont été. Il y a deux, trois trucs.
Ouais, qui auraient été plus complexes, voire même impossibles à faire.
Le problème, si tu veux, c'est que je me suis quand même posé la question à plusieurs reprises de me dire, mais en fait, je pense qu'il a fait ça parce que il n'avait pas le temps ou pas les moyens ou pas la volonté en fait de le faire en live, mais ça s'arrête là. Et à partir du moment où tu fais un truc en CGI et que tout est permis, surtout avec ce concept là qu'il a avec les zombies, tu peux très clairement aller bien au-delà de là. Ou alors, ça veut dire qu'il a eu une panne d'inspiration sur ces séquences-là, et ça, c'est aussi très problématique, quoi. Mais pour moi, le vrai souci, c'est pas là, c'est que je trouve que l'échelle de la narration et le côté éclaté aussi de cette narration et tout, c'est complètement foiré. Moi, je n'ai pas réussi à avoir de point d'accroche. J'ai eu énormément de mal à suivre les trajectoires des personnages entre eux. Je trouve que c'est complètement déséquilibré. Alors, comme le dit Arnaud et comme il l'a souligné, il y a plein de petites choses à grappiller par-ci par-là. Il y a un truc dont il n'a pas parlé, donc je pense que je peux le dire parce que c'est plutôt au début du film. Mais il y a une présentation d'un personnage qui est plutôt un personnage de méchant. Et le mec va pour se suicider. Et au moment où il se suicide, il a le flingue dans la bouche. Et il y a un mec qui cogne, puis lui, il parle, il dit oui, oui, mais avec le flingue dans la bouche, donc il a du mal à articuler. C'est une séquence, moi, qui est à la fois horrifique et qui, en même temps, est plutôt fun.
Et qui est un personnage qui sort de sentier battu.
Et oui, qui est assez étonnant, c'est vrai.
C'est clairement le grand antagoniste du film, quoi.
Ouais,
même si au début, on croit plutôt que ça va être un de ses hommes de main, toi. Mais enfin, ils se partagent la vedette, on va dire. Mais c'est une caractérisation comme t'en vois pas forcément dans des blockbusters comme ça.
Ça marche plutôt pas mal, quoi. Mais dans l'ensemble, j'en suis sorti avec beaucoup beaucoup de frustration parce qu'encore une fois, je trouve que le film n'arrive pas du tout à se donner les moyens de ses ambitions. Et encore une fois, ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question même pour moi de technologie, mais j'ai l'impression que Stéphane, c'est autre chose puisqu'il parle de série Z. C'est vraiment une question de mise en scène, de mise en place et de narration.
Ouais, et au-delà de la narration, est-ce qu'il n'y a pas aussi la question des enjeux sociaux ? Parce que dans le premier film, on est quand même sur en filigrane toute une critique de la société.
Alors ça, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus, Clémence. Justement, pour moi, ça fait partie des points. D'ailleurs, Arnaud aurait pu le rappeler, mais moi, je trouve qu'il y a... Mais c'est en germe, par contre. C'est pas abouti. Ça, c'est vrai. Je te rejoins là-dessus. Mais il y a pour moi, notamment, un truc assez intéressant sur l'immigration, sur les émigrés, la posture des émigrés, et qu'est-ce que c'est de retourner au pays, et qu'est-ce que c'est d'être, étranger, et de ne plus retrouver sa place aussi par là. Il y a un truc, moi, que j'ai vu commencer à naître, justement, dans les sections Hong Kong au début du film, mais c'est pareil. C'est pas abouti.
C'est effleuré. Je suis d'accord que c'est mentionné, mais c'est traité beaucoup moins profondément que dans le premier, où là, c'est
dans
même l'axe
dans
ce
film, encore une fois, tu vois, dans The Fake et tout, c'est des trucs dans l'appartenance à une communauté, ton rapport à une communauté, à un pays, à un lieu, c'était au cœur, en fait, de son projet.
Les Américains aussi, la présence américaine là-bas, quoi.
Ouais, mais ça, c'est plus, un peu plus...
C'est light, hein.
Anecdotique, pour moi, et en plus, un petit peu plus convenu.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à garder, quand même, pour toi, dans ce
film ? Oui, oui, pour moi, c'est ce que Arnaud a dit, en fait, il y a tous ces petits trucs, je les ai ressoulignés aussi, tu vois, cette amorce de petites choses. Pour moi, il y a des petites choses à grappiller, et c'est vrai que je pense que cette réception critique à laquelle Arnaud faisait référence, elle montre aussi une espèce de déviance de la critique qui est de en fait, tu verses trop dans un truc. Quand il y a un truc qui a eu beaucoup de succès, il est toujours, enfin, c'est fréquemment, c'est un truc qu'on a observé constamment, en fait, de bon ton, de taper à dessus sur la suite, si tu veux, à bras cassés. Surtout que,
ouais, mais moi, ce
ces
que
autres films à ce mec-là sont complètement passés inaperçus. C'est-à-dire que personne ne remet Peninsula ou Last Train to Busan en perspective avec ses autres films. Ça aussi, pour moi, c'est un problème.
Le problème aussi, c'est que personne ne lui accorde ça, au moins avec sur Peninsula, tu vois, c'est d'essayer d'avoir fait quelque chose de complètement différent de Busan, quoi, tu vois. D'avoir essayé de renouveler le bidule et pas de reconduire la même formule, quoi.
Mais je pense que sur le papier, on peut pas vraiment, en fait, reprocher toutes ces choses-là à Peninsula, justement. C'est-à-dire que, oui, moi, je suis client, en fait, d'un film qui fait une suite complètement différente de l'original. Je suis client, en fait, des références du mec, c'est-à-dire, là, vous les avez pas citées, mais moi, je l'ai entendu assez régulièrement, hein, Mad Max Fury Road, hein, pour la fin, de toute évidence, New York 97, de Carpenter, ce genre de choses. Et moi, je suis parfaitement client de tout ça. J'ai très envie de voir un film comme ça, avec des zombies dans le mix, avec des idées barré. Par exemple, une des petites idées que j'aime bien, qui pour le coup en plus je trouve lui ressemble, en fait, si tu veux, et par rapport à son background aussi, c'est la gamine qui a une petite voiture téléguidée avec qui fait des flashs et qui elle se balade avec.
Ouais, pour faire de la conductrice. Là.
Voilà, pour que les zombies puissent passer le chemin, en fait, ouais, parce qu'ils sont attirés par.
Toute une scène là-dessus, quoi.
Et voilà, c'est ça. Ils fonctionnent comme des chats, en fait. En gros, les zombies, ils courent derrière le truc, quoi. Voilà. Mais le truc, si tu veux, c'est que tout ça, c'est des petites idées qui sont cool. Mais en fait, ouais, je vais vraiment m'attarder sur la fabrication. C'est-à-dire, et pas seulement. C'est vrai qu'il y a la problématique du CGI. Et toi, tu veux parler de Fast and Furious. Et je pense que c'est clairement pas la référence du mec. Mais par contre, c'est vrai qu'à la fin, si t'enlèves le tuning de beauf et tout ça, je veux dire, oui, en fait, t'as des. Enfin, je veux dire, quand la plupart de tes scènes d'action, c'est des scènes d'action qui sont en bagnole, si tu veux, et que t'as pas une seule bagnole, en fait, en physique. Je veux dire, à un moment donné, ça se ressent. Soit tu fais effectivement, soit tu te délires sur la mise en scène derrière, ce qui n'est pas le cas du film, quoi. Soit, en fait, en gros, voilà, ça va finir par se voir, quoi. Et moi, je trouve que c'est pour ça qu'en fait, on peut pas. Mad Max Fury Road, c'est peut-être sa référence à lui. Bon, déjà, il faut s'accrocher pour y arriver, même quand c'est lui. Mais pour moi, à la fin, je vois World War Z, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, je vois, en fait, des nuées. Alors, encore une fois, c'est vrai que. Il a une façon de traiter le zombie, par exemple, si tu veux, qui est assez intéressante. Il y a au tout début, moi j'aime bien la scène qui est sur le bateau au début, quoi. Je la trouve plutôt intéressante et plutôt sympa.
Ouais, t'as pas tout ça dans le
Est-ce que tu
hein,
peux nous décrire un petit peu la scène
pour En moi. Gros, si tu veux, c'est ils essayent de s'échapper. C'est au moment où il y a l'outbreak, enfin l'épidémie qui est en plein, voilà.
C'est peu de temps après la fin justement
voilà,
de Busan.
Exactement. Et en gros, si tu veux, ils pensent qu'ils sont tous tranquilles sur le bateau et il y a un zombie. En fait, qui se réveille. Et
là, Exactement, comme dans le train.
Voilà. Et dans le réveil, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois que les gens le voient pas. Sauf qu'il y a cette espèce de truc où il fait une espèce de pirouette sur lui-même, qui est vraiment un truc, moi, je trouve, en fait, qui est très intéressant chez lui, qui faisait déjà dans le dernier train sur Busan, qui était passer de l'animation, si tu veux, tel comment il aurait pu l'animer. T'as l'impression vraiment qu'il l'aurait animé de cette manière-là, et en fait, il le montre comme ça, alors qu'en fait, aucun autre réalisateur qui a fait des films de zombies n'a pensé à les filmer comme ça. Et ça, c'est assez marrant, parce que du coup, ça donne une vraie personnalité, je trouve, à ce qu'il essaye de faire. C'est pas tant que la scène en soi, elle soit en plus en dur et en physique, sans numérique, parce que moi, j'ai pas de problème avec le numérique en soi, en général. Hein. C'est juste, en fait, que là, effectivement, il a pas les moyens de ses ambitions. Et surtout, en fait, même en termes de mise en scène pure, c'est-à-dire que voilà, le reste de l'utilisation est pas hyper flagrante. Alors que dans cette scène, elle est un petit peu plus travaillée, je trouve déjà. Mais cette scène est plutôt sympa en soi. Il y a pas mal de petites idées comme ça à droite à gauche. Mais au final, en fait, on a un espace. C'est même pas le CGI porn ou Overload ou je sais pas quoi. C'est vraiment le truc de perdre, je trouve, le cœur du récit. C'est-à-dire que à un moment donné, et ça, je vais pas spoiler ça, mais en fait, pour moi, le seul truc que j'arrive à peu près à retenir du cœur du récit, c'est au début, voilà, et ça va avoir des répercussions dans l'histoire. Le personnage, l'un des personnages principaux, en fait, décide de pas aider justement dans cette scène une famille. Il se trouve juste que ça, il va les retrouver plus tard, quoi. Et en gros, si tu veux, il te fait tout un cœur émotionnel là-dessus à la fin, 10 minutes en fait, qui tire à la ligne comme ça, pour un truc qui est hyper pas payant pour le coup, je trouve vraiment émotionnellement. Et c'est ça en fait qui nous avait pas habitué effectivement sur Dernier Train pour Busan, quoi. C'est-à-dire que il arrivait à gérer ces choses-là, ce qu'il ne fait pas là. Ce qui fait que du coup, pour moi, tu te retrouves avec toutes ces grandes références, toutes ces grandes ambitions et une fabrication et puis surtout une manière d'expédier par exemple certaines idées, de tirer à la ligne sur d'autres, et ça fait un film extrêmement déséquilibré. C'est pas un film sur lequel j'ai envie de taper, mais c'est pas un bon film en fait, c'est ça mon problème. C'est-à-dire que j'aurais aimé que ça soit un bon film parce que j'aurais aimé que justement je me dise oui, on peut faire ce genre de film là, on peut avoir ce genre de référence là, les upgrader façon de parler quoi, mais en tout cas leur redonner une signification aujourd'hui dans le cinéma de genre. Et je trouve que ouais, il s'en sort pas vraiment. Moi je trouve que les personnages justement, alors à part ce personnage de méchant dont on a parlé, qu'il y a un truc sympa avec lui à la fin quoi, pareil on va pas spoiler, mais c'est plutôt bien vu. Le reste des méchants, ils sont assez ridicules. Tu vois,
c'est un personnage de méchant atypique, tout simplement. C'est un lâche, mais qui a une capacité de nuisance effective dans le film. Après, moi, juste sur ce que tu disais, Steph, autant je trouve qu'effectivement, le final est moins réussi et beaucoup moins fort émotionnellement que celui de Busan, autant il faut quand même le remettre un peu dans le contexte. C'est le genre de final que sur des blockbusters comme ça, les spectateurs coréens, le film Peninsula est un carton atomique en Corée du Sud, que les Sud-Coréens affectionnent particulièrement. C'est-à-dire, et Busan, t'avais déjà ça à la fin, toi, c'est-à-dire une sorte de dilatation émotionnel dans laquelle certains diront ça dégouline de pathos, tu vois, et d'autres comme moi s'y couleront avec bonheur, quoi, tu vois. En tout cas, ils trouveront leur compte, quoi. Mais c'est vrai que ce truc-là, et encore une fois, même s'il est moins puissant que celui de Busan, c'est une sorte de figure imposée, un peu, quoi, tu vois, c'est-à-dire le grand final émotionnel avec. Moi, je voyais un petit peu dans la salle, moi, je l'ai vu en salle, avec des spectateurs français, non? Et je voyais que ça ricanait pas mal. C'est toujours ces problèmes.
Oui, bon, ça, c'est quand les spectateurs français sont pas habitués, on va dire, à l'émotionnalité asiatique. Quoi.
Voilà, ouais.
Parce que
on a connu ça à l'époque de John Woo, voilà, en France, dans les années 90, où les gens étaient morts de rire devant The Killer pendant tout le film. Donc oui, non, voilà, c'était juste pour préciser ça, quoi. C'est un peu ce genre de finale, c'est un peu une figure imposée, quoi. Donc voilà.
Alors, à propos de finale, bon bah, c'est déjà fini, hein, ça passe vite. Est-ce que vous conservez les mots que vous avez choisis, hein, tu étais sur série Z, Stéphane ?
Bah, moi, je le conserve parce que c'est vraiment une problématique de facture pour moi à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, c'est pas ce que j'attendais automatiquement du film, mais quand je parlais de l'idée de revenir, on va dire, à des films comme New York 97 ou ce genre de choses, effectivement, je m'attendais pas à avoir une facture à la Fast and Furious, tu vois, ou même, j'ai envie de dire, là, même pour aller encore un peu plus loin, enfin, Fast and Furious, c'est assez méchant pour là, on parle vraiment des poursuites en bagnole, mais Highlander 2, tu vois, ou ce genre de truc où il n'y a pas, pour moi, un ciel qui est naturel dans le film. Et je comprends la logique de ce que voulait faire le réalisateur dont on parle, Julien, l'idée de cinéma hybride, et c'est très ambitieux. Mais là, pour le coup, il a tellement pas les moyens, en fait. En tout cas, je sais pas s'il se les a donnés, jusqu'à quel point il pêche aussi par ambition. Mais au final, oui, j'ai l'impression de voir un film assez cheap et assez mal foutu, quoi.
Julien, toi, t'étais sur Déception.
Oui, non, bien sûr, je suis très cohérent. Moi. Alors moi, je suis pas du genre, tu vas pas réussir à me choper avec ça. J'ai juste envie de dire quand même que. Je pense quand même, malgré tout, que les amateurs de cinéma de zombies dans notre genre et tout devraient quand même donner une chance au film parce que, comme on l'a dit depuis le début, il y a quand même plein de petits trucs. Il y a plein de petits moments de satisfaction dedans et voir ce type de spectacle-là en salle, sur grand écran, c'est quand même pas, c'est pas hyper, hyper fréquent. Et voilà, moi vraiment le côté déceptif est évidemment sur le film, mais c'est plus global, c'est vraiment sur cet auteur là en fait. Là c'est vrai que c'est la première fois où je me dis depuis le début où je me dis bon merde, il peut vraiment se planter et ça se trouve il peut ne plus rien donner, ne plus me surprendre quoi. Donc voilà, on verra. Gardons espoir. Tiens, je vais changer pour espoir du coup.
Très bien, gardons espoir. Et toi, Arnaud ?
Bah écoute, moi je dois dire que je change de mot à l'issue de ce podcast et je prends Déception et Série Z. Je veux dire, revirement 360 degrés. Ou 180, non, parce que 360, ouais, je reviens où j'en étais. Donc je fais ça, en fait, je reviens et je maintiens plaisir. De toute façon, plaisir, c'est un terme de ressenti pur à la vision du film, donc je ne vais pas le remettre en cause, ça, ce plaisir-là, il a été effectif. Effectivement, ce que disait Julien, je pense que c'est un film qui va être distribué un petit peu en France comme Dernier Train pour Busan, c'est-à-dire il va y avoir au moins dans les 200 copies. Avec une bonne partie de VF, c'est-à-dire le distributeur. Les copies peut-être un peu moins dans le contexte actuel. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que je vois Julien faire les gros yeux. Non, mais c'est vrai qu'on ne sera pas dans la même catégorie que Busan.
Je fais des très belles grimaces. C'est dommage que ce soit pas
très expressif. Mais l'idée, c'est ça. En tout cas, il va y avoir des copies VF. Donc
ils l'ont acheté cher. Hein. Ouais, je crois qu'ils en attendent beaucoup. Quoi.
Bah, ça a été un gros succès en France, Busan. Donc moi, j'engage vraiment les gens à aller le voir. Parce que si vous voulez continuer à voir des films coréens, notamment, ou asiatiques, de manière générale, distribués en France de manière satisfaisante, allez voir Peninsula. Je pense pas que c'est un film... Non. Moi, même si j'ai bien conscience que tu ne résumes pas le film à ça, mais parler de Fast and Furious ou de World War Z, qui sont pour moi des blockbusters de merde, tu vois, des trucs dégénérés.
Je parle vraiment de points spécifiques.
Hein. Ouais, mais c'est pour ça que je le précise. Non, mais j'ai bien compris, c'est un point spécifique. Mais je voudrais pas que les auditeurs restent là-dessus.
Non, c'est pas le ton.
Vis-à-vis du genre. En
voilà,
fait.
C'est pas le ton des films. Hein, pas le ton des films.
Voilà, vous aurez de quoi manger quand même en allant le voir. Vous y trouvez votre compte. C'est des blockbusters comme ça. Les États-Unis nous en offrent pas forcément toutes les semaines à l'heure actuelle. C'est le cas de le dire. Et donc allez voir Peninsula.
Préciser un truc, hein, apparemment il y a aussi une expérience supplémentaire en salle, c'est qu'apparemment c'est en 4DX, il a été pensé en 4DX le film.
Ça c'est important, c'est vrai que j'aurais bien aimé moi le voir en 4DX, c'est un point important, je suis désolé, après on arrête tout de suite, mais non, pourquoi ? Parce que la 4DX ça vient de Corée du Sud, et c'est conçu en Corée du Sud. Or, en général, qu'est-ce qui se passe pour la 4DX ? Le 4DX, c'est, vous savez, c'est ces salles avec les sièges qui bougent, et puis tu te prends des petits jets d'eau dans la tête,
de
et il y a des effets stroboscopiques.
On est dans l'immersion.
Ça peut être non, mais ça peut être cool, quoi, quand c'est bien fait. Et donc c'est la Corée du Sud. En général, les mecs le font en autarcie. C'est-à-dire, c'est très rare en fait que les cinéastes s'impliquent là-dedans. Là, j'imagine, je ne le sais pas, je n'ai pas l'info, mais j'imagine que lui étant coréen, sud-coréen, il est possible qu'il ait été impliqué dans la conception du 4DX. Auquel cas, ce serait probablement une expérience à tenter.
Ouais, bon, moi, dès que je rentre à Nice, je vais retourner le revoir au Pâté Langoustière, parce qu'il est projeté là-bas en 4DX.
Ça a la chance de voir Ernest Bordeaux.
Voilà.
C'est un argument.
En personne.
Merci beaucoup pour vos avis.
Merci Clémence. T'as vu, on t'a presque pas coupé la parole. Alors je te coupe quand même un peu la parole à la fin pour le
pour
plaisir.
Faire chier, quoi. Voilà,
c'est ça. T'inquiète pas. Je vais terminer. C'est moi qui aurai le mot de la fin. En m'adressant tout d'abord aux auditeurs. Hein. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que ça vous a plu ? Vous pouvez nous donner votre avis sur le répondeur de Capture Mag, c'est sur le messenger de Capture Mag. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast que vous préférez, Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Bon, dans le contexte actuel, avec les sorties ciné qui sont parfois repoussées ou annulées, parfois à la dernière minute, on ne vous garantit pas qu'on aura une régularité de l'horloger, mais ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra. J'en profite pour dire un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Hein, ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, si vous voulez nous donner un coup de pouce, n'hésitez pas à participer aussi. Et puis pour nous aider, vous pouvez aussi relayer l'émission sur les réseaux sociaux. Hein, on est présent sur Twitter, sur Instagram, YouTube et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus, des étoiles et à retweeter. Ravi d'avoir été avec vous pour ce tout premier épisode de Sale Temps pour un film.
Merci aussi, ravi.
Et je vous dis à la semaine prochaine.
Prochaine.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.